L'Évangile de Luc, chapitre 6, les versets 27 à 38. Luc, chapitre 6, versets 27 à 38. Au nom de Jésus. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Donne à tout homme qui te demande quelque chose. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le lui réclame pas. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendront, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils leur rendent la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les fils du Dieu Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. Ne jugez pas les autres et Dieu ne vous jugera pas. Ne condamnez pas les autres, et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres, et Dieu vous pardonnera. Donnez aux autres, et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dents envers vous avec la mesure que vous employez pour les autres. Amen. Après avoir lu et entendu ce texte, quelle serait votre réaction? Moi, je dirais ouf. It's too much. Trop, c'est trop ce que Jésus est en train de me demander là. C'est quasiment impossible. Toute une liste. Il n'y a même pas un point qui est tenable. Je dirais même Jésus exagère. Il pousse trop loin le bouchon. Qui ici dans cette salle pourrait atteindre ces exigences-là? Je ne sais pas. Peut-être vous, mais il ne faut pas se mentir. Personne n'a cette capacité de suivre à la lettre ce qui y est et ce qui est dit. La théologienne Christine Pedotti, une théologienne catholique que j'apprécie particulièrement, qualifie ce texte comme étant, écoutez bien ce qu'elle dit, le cœur nucléaire de l'Évangile. Le cœur nucléaire, dans cette idée nucléaire, c'est-à-dire qui fait tout exploser. Ce texte est explosif. Ce texte est incandescent même. Ce texte est une pure folie. Et je ferme la parenthèse selon sa citation de cette théologienne. Et moi, je rajouterai même que Jésus a fait exprès, je pense, de faire ce genre de recommandations de façon exagérée, d'aller à l'extrême justement pour nous interpeller, pour nous choquer. Vous savez, quand on fait la rhétorique ou on prend la parole en public, soit on fait rigoler les gens pour attirer leur attention, soit on les choque par des propos un peu blessants, justement pour que les gens puissent être interpellés. Et je pense que c'est un peu le style que Jésus utilise ici. Il fait exprès, il rajoute, jusqu'à ce qu'on dit « Ouf, ça suffit, j'en peux plus ». Son but, c'est de nous dire que tout ce que tu viens d'entendre, mon enfant, cet amour mentionné n'existe pas chez toi. C'est ça. Oui, c'est ta réaction qui dit « Ouf, mais c'est normal ». Cet amour-là n'existe pas sur cette terre. Et il ne faut pas rêver à l'atteindre un jour. Alors, ma méditation devait se terminer là. Je dis, bon, c'est fini, c'est impossible. Chacun le médite là-dessus. Pourquoi alors Jésus a-t-il mis la barre si haute? Même en sachant que nous ne pourrons jamais l'atteindre. Pourquoi il l'a fait? Telle est la réflexion que j'ai eue en préparant cette prédication. Comme c'est un texte classique, bien sûr, très connu, j'ai un peu sillonné les différentes explications qui ont été données autour du texte, parce qu'il y en a pas mal qui en a prêché là-dessus. Et j'ai fait une synthèse suivante. Soit une bonne partie des gens va dans une direction moralisante, forçant même la main des croyants à dire « un croyant doit faire ça », de fournir un effort surhumain, d'aimer son ennemi comme Jésus l'exige. Et moi, je le souligne entre parenthèses, qui est impossible. Ayons les pieds sur terre, soyons réalistes. Il y a aussi un autre courant que je qualifierais entre guillemets « humaniste » quand il lit ce texte en disant qu'au-delà du mal, ils essaient de philosopher là-dessus, au-delà du mal que mon ennemi a fait contre moi, par exemple quelqu'un m'a fait du mal, j'essaie de comprendre dans ce mal qu'il m'a fait que derrière il y a quand même quelqu'un de bien. Voilà le courant humaniste, philosophe. Il aurait tout de même une personne que Dieu aime et qu'en lui, il reste encore une partie de l'humanité, pas totalement détruite, donc je ne dois pas le haïr complètement, même s'il m'énerve. Ça, c'est les humanistes qui le disent. Admettre que même chez les pires criminels, il reste encore quelque chose d'humain, c'est-à-dire croire en l'homme. Voilà deux positions, en tout cas la plupart de toutes les prédications que j'ai entendues là-dessus, soit dans l'un, soit dans l'autre. Et moi, je me pose la question, où vais-je me positionner? Pour ma part, ces deux courants, pour moi, sont insoutenables, en tout cas pour moi. Je ne dis pas que c'est qu'une pure vérité, mais pour moi. Car dans le premier cas, soyons honnêtes, qui ici parmi nous peut dire qu'il arrivera à faire même rien que le dixième de la liste donnée par Jésus? Qui fait du bien en ceux qui le haïssent? C'est impossible. Qui tendra l'autre joue à son ennemi une fois qu'il a reçu un coup? Pas moi. Qui ne réclame pas si on lui dérobe? Dès que vous avez été dérobé, vous allez tout de suite à la police, non? Déclaration de perte. Qui bénit celui qui le maudit? Je n'en connais pas trop. Hein. Etc. Et la liste est encore longue. Moi, en tout cas, en me connaissant, si mauvais que je suis, et je l'avoue et je l'admets, je ne saurais faire même pas une de ces consignes. Et donc, moi, je pourrais me sombrer dans le désespoir face à ce texte, que je ne saurais vivre ce que Jésus demande dans ce texte. Certains vont peut-être dire que si c'est possible, il faut juste de l'abnégation. Comme là maintenant, le deuxième cas, les humanistes. Si c'est possible, parce qu'il y a eu quelques personnes dans l'histoire de l'humanité qui ont eu l'abnégation, comme Indira Gandhi, la non-violence, comme Martin Luther King, disent certaines personnes, ou autres. Mais moi, je vais être encore plus critique. Est-ce que le message de Jésus parle de non-violence? Non. Dans le principe de la non-violence, il y a encore une notion de résistance. La non-violence, c'est une forme de résistance face à l'adversaire. Or, ici, le texte ne parle même pas de résistance. Il dit « laisse-toi faire ». Jésus, dans cet évangile, il ne nous appelle pas à résister, mais à aimer. C'est deux choses complètement différentes. Et il faut souligner qu'aimer son ennemi ne veut pas dire qu'il faut devenir copain avec lui. Non, Jésus aussi, il est réaliste. Aimer son ennemi ne veut pas dire devenir ami avec lui. Non, il ne va pas te dire « va devenir ton meilleur pote de ton ennemi ». Jésus ne te demande pas ça, pas du tout. Aie plus d'affinité avec ton ennemi. Non, il ne te demande pas ça. Si Jésus nous dit « aimez vos ennemis », selon le texte que nous avons ici, c'est qu'il reconnaît que la personne en question n'est pas un ennemi. Il le dit bien, c'est un ennemi, mais il faut l'aimer. Donc il y a une conscientisation, il est conscient que tu ne le supportes pas. Et il tient compte que ça restera toujours de quelqu'un dangereux pour toi qui cherche à te nuire. Il n'y a aucune forme de naïveté dans les propos de Jésus, ou je dirais dans la chrétienté, au contraire, on se rend compte réellement de sa vraie nature. Alors, que signifie aimer son ennemi? Alors, comme je l'ai dit au tout début de ma méditation, ce que Jésus nous demande dans ce texte est quelque chose d'impossible, comme je l'ai dit. En d'autres termes, il nous demande un amour qui n'existe pas sur cette terre. Je dirais même un amour renversant. Un amour qui fait renverser les puissants. Un amour qui fait renverser les forts de leur position. Rappelez-vous Jésus à la croix, l'évangile de Marc, il était dans toute son agonie. Il souffrait. Il disait « Eli, Eli, lama sabachthani, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tout le monde se moquait de lui. Les passants me disaient « Mais ce n'est pas lui qui avait ressuscité Lazare. » Dans ce moment le plus sombre de sa vie, un soldat romain, un centurion, s'est mis debout devant lui et il a dit « Il est vraiment le Fils de Dieu. » Est-ce que vous voyez ce contraste ? Tout le monde se moque de lui. C'est un échec qu'il envoie là. Et pourtant, un soldat romain, rappelez-vous, un soldat romain est habitué à toute gloire, honneur, dans les guerres. Et pourtant, il dit, waouh, ça, c'est un fils de Dieu. C'est ça l'amour qui fait renverser les grands. C'est ça l'amour surnaturel qui fait détrôner les puissants de leur trône. Cet exemple que Jésus donne. Donc en parlant de renversant, c'est quelque chose qui vient d'en haut et qui nous fait tomber par terre. Et cela me fait penser à Paul, rappelez-vous Paul, qui persécutait l'Église au tout début, par toutes ses forces, sans pitié, avec conviction même. Il croyait que ce qu'il faisait était bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Un beau jour. Il fut renversé, et le mot est à la lettre ici, renversé de son cheval en pleine course, tombé par terre. par celui qu'il détestait le plus. Et à cet instant-là, Paul était à la merci de Jésus-Christ. Il était devenu aveugle. Donc, il suffit d'un peu pour l'anéantir. Il était à sa merci. On aurait peut-être imaginé que c'était l'occasion en or, l'idéal pour le Christ de l'humilier devant tout le monde. C'est l'occasion idéale de se venger des sangs de tous les martyrs. Si on était à la place de ces chrétiens-là ce jour-là, dit « Voilà le temps que Dieu nous a donné, il nous a rendu justice. » Et pourtant, ce n'était pas le cas. C'est tout à fait le contraire que tout le monde attendait. Jésus l'appelle, dit « Il est un instrument efficace pour mon royaume. » On attendait à quoi ? Maudit sois-tu, assassin, criminel. Et pourtant, la parole qui sort de la bouche de Jésus, il est un instrument efficace vers les païens pour le royaume de Dieu. Et j'emprunte à nouveau les mots de Christine Pedotti. C'est incandescent. Un gars qui a du sang pareil dans ses mains a été choisi par Dieu pour être apôtre. Qui peut m'expliquer cette logique? Un gars qui a du sang dans ses mains et qui a été choisi apôtre. Tout raisonnement piétiste, puritain, évangélique, protestante, catholique, tout ce que vous voulez, tombe à l'eau ici. Aucune logique. C'est un amour renversant, incandescent, scandaleux. C'est choquant même. Certains même pour dire, mais si c'est comme ça le christianisme, je ne m'investis pas. Oui, c'est normal, c'est choquant. Et la théologienne Pedotti même, elle a osé utiliser une phrase assez forte et je me mets derrière ses paroles, ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. Elle dit, pour Jésus, aimer, c'est choisir le salopard et la garce. Ça, c'est mot. Pour une théologienne catholique qui ose dire ces mots-là, vous comprendrez le poids. Aimer, c'est choisir ce gars-là. C'est absolument incompréhensible, mais c'est ce que Dieu veut. Donc, chers amis, l'amour de Dieu est absolument incompréhensible et il nous surprend. C'est l'amour inconditionnel, un amour, je dirais même, disproportionnel, un amour surnaturel qui n'est pas à l'équivalent de ce que nous lui rendons, ce qu'il nous donne. Et il faut ce type d'amour pour espérer éteindre le mal. C'est le seul qui peut éteindre le mal. Puisque le mal est assez radical dans notre cœur, le mal est assez radical en profondeur dans notre chair, gravé dans la chair, alors il faut un amour incandescent. Il faut un amour surabondant. Il faut un amour disproportionnel pour ouvrir les yeux d'un pécheur. Et comme dit les livres des Proverbes, Proverbe chapitre 10, verset 12, et je termine là-dessus. L'amour couvre toutes les offenses. Amen.